Nous nous étions quittés dimanche passé, j'espère que vous vous en souvenez, en nous posant la question comment nous approprier la puissance mise à notre disposition par la présence du Saint-Esprit en nous. Si Dieu nous a donné le Saint-Esprit, ça n'est pas vraiment pour faire décoratif. Il y a une raison fondamentale à sa présence en nous. Alors pour moi, pourquoi est-il là? Pour moi, la réponse nous a été donnée par Jésus lui-même au travers d'une de ses paraboles, probablement la plus simple en apparence, et malgré tout la plus profonde. Alors je vous propose de lire ces quelques versets qu'on retrouve dans l'évangile de Jean. La plupart d'entre vous connaissent, je pense, ce texte, cet enseignement de Jésus. Alors j'ai pris une traduction peut-être qui s'éloigne un peu de la traduction qu'on a l'habitude de prendre, c'est la parole de vie, parce qu'on est dans les traductions habituelles, on était plutôt dans le cep, le sarment. Alors je ne veux pas préjuger du fait que votre vocabulaire est minimaliste, mais je pense que cep et sarment, la plupart des gens... À part ceux qui sont vraiment dans le vin ou dans la vigne, je préfère cette traduction-là parce qu'elle me paraît plus explicite. La vraie vigne, c'est moi, et mon père, c'est Jésus qui parle bien sûr, et mon père est le vigneron. Il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits, et il taille toutes les branches qui donnent des fruits. Ainsi, elles en donneront encore. Les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillées. Restez attachés à moi, donc j'ai mis moi-même entre parenthèses, demeurez en moi, parce que dans la plupart des traductions, c'est le verbe que l'on a. Comme moi, je reste attaché à vous, comme je demeure en vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule, elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attaché à moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui ne reste pas attaché à moi, on le jette dehors comme les branches. Alors les branches deviennent sèches, on les ramasse, on les jette dans le feu et elles brûlent. Si vous restez attaché à moi et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous, on aime bien ça, hein, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Quand vous resterez attaché à Jésus, tout ce que vous risquez de demander, c'est des choses en rapport avec le royaume. Donc rien d'égocentrique, rien de personnel. Et c'est clair que ça, Dieu répond. Donnez beaucoup de fruits et soyez ainsi mes disciples, alors vous montrerez la gloire de mon Père. Littéralement, ce que mon Père est par nature et par essence. Alors la bonne nouvelle, ça n'arrive pas souvent, c'est que Jésus donne lui-même la réponse à son propre enseignement. Il le résume en fait dans l'enseignement même. Demeurez en moi, restez attachés à moi dans cette version-ci, et... Je demeurerai en vous, plutôt, parce que le grec est plus proche de ça. Comme moi, je demeure en vous, vous demeurez en moi. Mais restez attachés à moi. Alors, c'est assez logique quand on prend l'image de la vigne. Elle n'est pas belle, ma vigne, hein? Vos raisins. Tout cela est logique puisqu'il est la vigne et nous les branches. Autrement dit, une branche n'a pas d'existence propre. Elle n'existe pas toute seule par elle-même. Sa vie, sa survie dépend de sa dépendance. De ce qui la soutient et la nourrit, à savoir la vigne. Mais la question demeure. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire sans lui? Et Jésus répond aussi lui-même, porter du fruit. Sans lui, nous ne pouvons pas porter du fruit. Sans demeurer en lui, sans rester accroché à lui, nous ne pouvons pas accomplir la mission pour laquelle nous avons été créés. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais nous n'avons pas été appelés par Dieu dans sa famille pour qu'on puisse lui dire merci beaucoup Seigneur, c'était super, la croix géniale, merci, hein, j'en demandais pas tant, maintenant je vis ma petite vie par moi-même, de mon petit côté, de prier de temps en temps quand j'en sors pas, et pour le reste du temps, on se reverra au ciel et ce sera super. On n'a pas été appelés par Dieu pour vivre ce genre de vie. On a été appelés pour rester accrochés à lui. Autrement dit, le vivre, je sais pas si vous savez avant de venir ce matin, mais votre vie ne vous appartient plus. Elle appartient au Christ. Bon, je sais bien que parfois c'est dur à avaler, parce que nous sommes indépendants, hein, soi-disant, mais la pensée de Jésus, c'est que nous lui appartenons. Donc cette mission dont je parle est multiple et revêt tous les aspects de votre vie. On ne peut pas séquencer la vie spirituelle du votre lever le matin, peu importe à quelle heure vous levez le matin, je ne veux pas le savoir, et l'heure à laquelle vous couchez, pas trop tôt, parce qu'il y a une vie à vivre quand même après le travail. Chaque seconde de vos vies, de votre quotidien, vous devez rester accroché à Jésus et porter du fruit pour lui. Tous les aspects de votre vie sont liés à ça. Alors, j'en vais en citer quelques-uns, mais bon, il y en a d'autres, hein. Votre ministère, autrement dit vos dons spirituels, ces dons qu'il vous a donnés pour le servir dans le cadre de l'Église. Votre témoignage ou la capacité qu'il vous donne de partager votre foi avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et en Belgique en particulier, les références à Dieu commencent à se diliter allègrement. Et puis, dans votre vie de famille, vos rapports familiaux, vous avez aussi besoin de Jésus pour montrer quelque chose de sa présence. Si vous montrez rien et dire « je suis chrétien » et ne rien montrer de la présence de Jésus, il y a comme une sorte de paradoxe, me semble-t-il. Donc, toute votre vie, cette vie ici, hein, dans la chair, hein, mais c'est la seule que vous avez à vivre pour l'instant, ben, cette vie-là, elle est spirituelle par essence, puisque le Christ habite en vous par son esprit. Alors, j'en ai touché deux mots dimanche passé. Il y a plein de choses qu'on peut faire sans lui. Et que c'est pas trop grave. Et j'aurais pris l'exemple, il vaut ce qu'il vaut, hein, je sais bien. Pour vous brosser les dents le matin, vous pouvez le faire le soir aussi, hein, c'est sympa. Deux fois par jour, c'est le minimum pour moi, mais on va prendre le matin. Pour vous brosser les dents le matin, vous n'avez pas besoin de Jésus. Vous pouvez faire avec lui, pensez à lui en vous brossant les dents, ça c'est plutôt sympa. Mais vous n'avez pas besoin de l'Esprit Saint pour vous brosser les dents, vous allez faire ça tout seul, hein. Nous sommes d'accord? Mais par contre, il y a plein de trucs, la grande majorité des choses, vous ne pouvez pas le faire sans lui si vous voulez que ça porte du fruit. Vous pouvez vivre votre vie chrétienne de manière religieuse sans jamais avoir besoin de Jésus. Ça s'appelle la religion, justement. Pratiquer un certain nombre de choses par devoir, c'est la notion biblique, la différence entre l'esclave et le fils. Rappelez-vous la parabole du fils prodigue. On parle toujours du fils cadet qui revient chez son père en demandant pardon, mais le fils aîné qui n'est jamais parti, lui, il a une mentalité d'esclave. Il fait les choses, il obéit à son père par devoir. On a le choix. Soit on dit, bah, il faut aller à l'église, bon, il faut faire ça, bon, je dois obéir à Dieu. Soit on le fait comme un fils, par amour pour son père. Donc, brosser les dents, pas besoin de Jésus. Il y a donc également des choses que l'on peut faire pour lui en étant totalement déconnecté de lui, même religieusement. Vous pouvez faire plein de trucs en rapport à du spirituel sans être dépendant de Jésus. Les pharisiens du temps de Jésus, les responsables religieux de son temps, jamais à aucun moment Jésus ne leur reproche de ne pas croire en Dieu. Il sait très bien qu'il croit en Dieu. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas attachés à Dieu. Ils ne vivent pas de sa vie. Ce sont des êtres religieux qui posent des actes religieux. Mais ils sont totalement déconnectés de Dieu. Avec comme conséquence, c'est qu'ils ne portent pas de fruits pour Dieu. Hein, jusque-là, c'est... oui. Bon, s'il y en a qui s'endort, j'aurais compris qu'il faut que je ralentisse. Alors certains, petite parenthèse, certains ont avancé l'hypothèse que le verbe « demeurer » en Jésus signifiait « croire ». Ça avait un rapport à la foi. Alors, je vais m'avancer, moi, c'est moi qui dis. Hein, c'est... En fait, on est plus ou moins 3 millions à avoir un avis différent sur le sujet, comme ça vous savez. Moi, je ne pense pas que Jésus parle ici de la foi. Parce que je pense que demeurer en Christ, c'est beaucoup plus que simplement croire en lui. On peut très bien croire véritablement en Jésus, mais vraiment, hein, et ne pas porter de fruits. Oserais-je dire que c'est probablement, et je me mets dedans, hein, probablement le signe de l'Église d'Europe, d'Occident aujourd'hui. Il y a plein de chrétiens qui disent « moi je crois en Jésus ». Et comme on dit à Bruxelles, « ente zolus », et c'est tout. Mais il n'y a pas de fruits, parce qu'ils ne sont pas attachés. Enfin, ils ne sont pas disciples. D'ailleurs, réfléchissez, imaginez que effectivement Jésus nous dit qu'il faut croire. Que ce terme demeurer veut dire croire en lui. La conséquence serait terrible. Ça voudrait dire que l'absence de fruits signifie l'absence de foi. Et donc quoi? Ben donc la mort spirituelle. On ne serait pas vivant. Alors que moi je suis convaincu, mais convaincu, hein, quand on regarde l'image de l'Église, l'histoire de l'Église depuis 2000 ans, qu'on peut être vraiment, vraiment, on peut avoir la foi en Jésus et ne porter aucun fruit. Alors le problème, notre problème par rapport à cette parabole, vraiment, hein, c'est qu'elle donne aucune explication sur le comment je peux demeurer en Christ. Jésus explique pas. Je sais pas vous, mais moi ça m'embête profondément quand il explique pas ce qu'il dit. Moi je suis un enseignant. Donc moi quand je dis quelque chose, j'explique. Vous voyez, comprendre, c'est pourquoi je mets jamais de cravate d'habitude à cause du micro. Mais je pense qu'il y a une raison pour laquelle il ne donne pas d'explication. Vous savez la raison? Enfin, par rapport à moi. Vous allez peut-être vous reconnaître dans ce que je vais dire. Je pense qu'il ne donne pas d'explication parce que s'il avait donné une explication comment demeurer en moi, on en aurait fait une sorte de méthode magique qu'on aurait enseignée pendant 2000 ans. Et puis, après une semaine, on aurait commencé à tirer des trucs. Hein. Jésus a dit ça, mais il y a encore ça. Et puis, on aurait commencé à faire des sous-couches et des sous-enseignements et on se serait retrouvé avec des tartines énormes. Et surtout, on aurait fini par en faire une loi, une règle à suivre et plus un principe de vie à vivre. C'est mon avis. Hein. Mais le problème reste entier. Comment est-ce que je fais pour demeurer? Si j'étais vraiment vache avec vous, j'arrêterais là. Je dirais, débrouillez-vous, parce que c'est moi je me débrouille aussi. Rassurez-vous, hein, je ne vais pas en rester là. Il faut d'abord comprendre que si Jésus ne nous explique rien, c'est probablement pour la raison que je viens de donner, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de sagesse dans le fait qu'il ne donne pas de détails et d'explications. Notre Seigneur a préféré nous laisser avec cette image de la vigne et des branches. Premier niveau, il faut admettre que nous ne sommes qu'une branche. Ça veut dire qu'il faut admettre que nous ne sommes pas Dieu. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ça, Yves, ça va, hein, ça, je sais bien que je ne suis pas Dieu. Ouh, aïe, aïe, aïe. Moi, je ne suis pas certain que quand vous décidez par vous-même, quand vous ne demandez jamais l'avis de Dieu, vous vous prenez pour Dieu. Mais je vous rappelle, il n'y a que Dieu qui sait être Dieu, hein. Lui, par nature, il est formaté pour, il est comme ça par nature. Nous, pas. Donc déjà, il faut accepter que nous ne serions qu'une branche. Donc c'est quelqu'un d'autre que nous qui allons diriger notre vie. Ça, ça coince. Enfin, c'est pas, mais moi, parfois, ça coince, mais solidement à ce niveau-là déjà. Tu es mon Dieu, mais je vais quand même faire ce que je veux. Posez-vous encore une fois la question, sur une journée de 24 heures, combien de fois vous demandez l'avis de Dieu pour faire ce que vous devez faire, ce que vous avez à faire? Bon, encore une fois, pour savoir ce que vous allez faire à souper, à manger, c'est peut-être pas nécessaire. Enfin, ça dépend qui cuisine. Moi, je pense que certains, quand ils cuisinent, il faut vraiment prier. Mais vraiment, même ça, ça devient spirituel à ce moment-là. Non, je ne donnerai pas de nom. Alors, il y a mon sens, on ne va pas terminer aujourd'hui cet enseignement, c'est beaucoup plus profond que ça, mais il y a mon sens, donc trois enseignements importants que nous pouvons tirer de cette image de la vigne et des branches. Et on va voir le premier aujourd'hui. C'est que Jésus nous appelle à une connexion, une relation profonde, étroite. Il appelle à ça. Pas ça, pas ça, encore moins ça, ça. Une union totale, dépendant, on n'aime pas ce nom. Je vais le dire, hein, je sais bien que ça coince. Hein, une dépendance, aïe, 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 une dépendance totale. Autrement dit, pour vivre ce qu'il nous dit, il faut renoncer à soi-même, au quotidien, afin de laisser l'esprit, justement, la sève de l'esprit, consolider le lien entre nous et le Christ. Il faut renoncer constamment à tout mérite propre. Quand je fais quelque chose de bien, je sais que c'est Dieu en moi qui fait ce quelque chose. Parce que par nature, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, hein, par nature, nous sommes incapables de produire un bien durable, le fruit, durable. Refuser à toute volonté propre. La branche, elle n'a pas de volonté par elle-même. Dès qu'elle dit, oh, moi je suis une branche, je vais être indépendant, elle tombe. Elle est déconnectée. C'est ce que Jésus dit, elle tombe, elle se sépare de moi, elle tombe, et comme elle n'a plus ma vie en elle, elle sèche. Elle ne sert plus à rien. Et surtout, elle ne portera pas de fruits. Donc ça, c'est la grande priorité, c'est le principe numéro un. La relation avec Jésus, son désir, c'est l'intimité avec nous, avec chacun d'entre nous. Devenir un intime de Jésus. Si vous le faites, dit Jésus, je paraphrase sa pensée, je demeurerai en vous comme la source intarissable de votre vie spirituelle. Je serai la source où vous allez prendre en permanence la capacité de vivre votre vie. On ne peut pas vivre une vie relationnelle avec Dieu sans Jésus. Ça n'est pas possible. Si vous ne le faites pas, c'est un choix, hein, ben vous serez stérile. n'y aura pas de bébé. Je peux dire ça comme ça. Alors cette conséquence résulte simplement de l'image même employée par Jésus. Jésus établit ainsi clairement la distinction entre la nature et la grâce. J'explique. Par nature, spirituellement, nous ne pouvons rien faire. Si ce n'est, et ça il faut le comprendre, défaire ce que Dieu fait. Chaque fois que j'essaye de faire des choses à la place de Dieu en moi, en fait, même si je ne m'en rends pas compte, même si j'ai l'impression de faire quelque chose de chouette et de bien pour lui, je défais ce qu'il est en train d'essayer de faire. Et c'est à partir de mon ancienne nature, sans Dieu, que j'essaie de produire ça. Et je ne produis à ce moment-là que de la religion, que des actes spirituels qui n'en sont pas. Par exemple, quand je partage la foi avec quelqu'un, plutôt que de l'écouter, d'essayer de le rejoindre dans sa réalité, dans ses questionnements profonds au niveau de Dieu et du monde, je lui envoie la Bible à la tête. Je prends la Bible, les gros modèles, hein, et pouah, un grand coup, voilà. Et après, on dit, waouh, génial, j'ai gagné l'entretien que j'ai eu avec lui. Je l'ai coincé spirituellement. Oui, mais t'as perdu la personne, hein, Coco. Tu verras plus jamais la personne. Vous pouvez pas parler de Dieu si Dieu ne parle pas à travers vous. Il n'y a que Dieu qui peut parler de Dieu, convenablement. Le fruit dont parle Jésus, c'est un homme ou une femme changé émotionnellement et surtout guéri de son égocentrisme, pleinement conscient que sans Dieu, il ne peut, elle ne peut strictement rien faire. C'est aussi, finalement, en cours de route, avoir d'autres priorités et surtout une vision renouvelée du monde dans lequel nous nous trouvons. Et ce monde devient alors une immense moisson, c'est Jésus qui le dit, hein, dans laquelle le Christ nous appelle à être ses ouvriers. Vous savez, ce texte est magnifique. Hein. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a une bonne nouvelle hein, dans ce verset. La moisson est grande. Le grec dit immense. La moisson, vous vous rendez compte, qu'est-ce que ça veut dire hein. La moisson est immense. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est le problème, il y a peu d'ouvriers. Donc, moi, je suis un homme de la ville, hein, je suis bruxellois à la base. Moi, je suis en Brendaleuse, à 40 km de Bruxelles. Je suis en mission en terre étrangère, ici, pour vous dire, hein, pour vous dire le décalage. Hein. Donc, moi, la moisson, j'en ai jamais vu de moisson. Bon, ici, dans des reportages, dans des films. Mais ce que j'ai compris, c'est que si tu as une moisson de 1000 hectares à moissonner, il y a deux types qui doivent le faire. Bon courage. Hein. Donc, quand on dit que spirituellement, les choses n'avancent pas, c'est parce qu'il y a peu d'ouvriers. L'enjeu ici ne consiste, et ça c'est important, l'enjeu, ce que Jésus nous dit, ça ne consiste pas uniquement à avoir ou à améliorer des comportements moraux, hein, à devenir moralement plus acceptable. Ça n'a rien à voir avec ça. Hein. De nombreuses personnes qui ne croient pas en Dieu sont capables de poser elles aussi des actes dignes de Dieu sans même le connaître. Hein. C'est Paul qui dit ça, hein, dans sa lettre à l'église de Rome. C'est pas ça le problème, et c'est pas de ça dont Jésus parle. Il ne s'agit donc pas de dire que nous sommes incapables d'aucun bien sans l'aide de Dieu. Je vous dis, on peut se brosser les dents sans lui. Mais, bien, et là je cite un grand exégète du 19e, Frédéric Godet. Il s'appelle Godet, j'en peux rien, quoi. Il n'est pas beau. Le thème, c'est ce qu'il dit, le thème, en parlant de cette parabole du cep et des serments, le thème ici formulé n'est pas celui de l'impuissance morale de l'homme naturel, pour tout bien, donc de l'homme sans Dieu. C'est celui, écoutez bien, de l'infécondité du croyant, laissé à sa propre force, quand il s'agit de produire ou d'avancer dans la vie spirituelle, la vie de Dieu, en lui ou chez les autres. Il a tout à fait compris, je pense. Ce que Jésus nous dit, vous êtes appelés à vivre une vie spirituelle. Vous ne pouvez pas la vivre si vous le faites sans moi. Voilà. Essayez de le faire par vous-même, ça ne va rien donner du tout. Nous ne sommes que des branches, et nous n'avons aucune vie spirituelle proche. Et propre plutôt, merci. Propre. Une branche, sans la vigne, elle n'a pas de vie. Vous savez, il y a une question que l'on pose souvent aux chrétiens. Alors, je ne sais pas si c'est votre... Moi, on l'a souvent posée. Pensez-vous vraiment qu'il n'y ait qu'un seul chemin vers Dieu? C'est une question qu'on m'a souvent posée. Ça fait un peu, comment dirais-je, sectaire. Enfin, que Jésus soit le seul chemin, alors qu'il y en a tant d'autres. Mais la réponse à ça, c'est quoi? Ben moi, ma réponse, c'est oui, bien sûr qu'il est de ce chemin. Si, chemin à si Jésus-Christ est Dieu, qu'il s'est incarné, qu'il est venu sur cette terre, qu'il est mort pour nous sur une croix, qu'il est ressuscité, qu'il est le Fils de Dieu et le Créateur de toutes choses, comme il a dit lui-même, alors forcément, il est aussi nécessaire à l'âme humaine que le pain que l'on va manger tous les jours pour éviter de mourir de faim. Alors forcément, il est le chemin. Alors si je dis ça dans ce contexte-ci, c'est que nous fonctionnons parfois, tout en étant chrétiens, comme si nous ne l'étions pas. Comme si la revendication du Christ à être notre seule source nous posait problème. Et mes amis, soyons honnêtes, ça nous pose problème. Quand il dit « vous avez besoin de moi, sans moi vous êtes rien », on a du mal à déglutir. On n'accepte pas ça. Et c'est pour ça qu'on ne porte pas de fruits. Mes amis, s'il est Dieu, si on croit qu'il est Dieu incarné, si on croit qu'il a donné sa vie pour nous, si on croit qu'il est ressuscité, mais non d'un chien, pourquoi est-ce qu'on discute avec lui? Il est Dieu, nous ne le sommes pas. Comment est-ce possible de dire, si on croit vraiment que Dieu est Dieu, pourquoi est-ce qu'on discute avec lui plutôt que lui faire confiance? La plupart d'entre nous ont eu des enfants. Quand un enfant de 3 ans dit « moi je ne vais pas faire ça », vous lui faites un exposé de théologie? Vous lui dites quoi? « Ah, je vais commencer à discuter pour t'expliquer, pas à 3 ans ». Il dit « tu vas le faire parce que je suis ton père ». On n'aime pas entendre ça. Hein? Ben oui, parce que je suis ton père, j'ai 45 ans, t'en as 3, tu vas te taire maintenant et tu vas faire ce que ton père te dit. Ben c'est exactement ça. Je sais que c'est dur à entendre. Hein? Pourquoi est-ce qu'il faut discuter avec Dieu? D'ailleurs, Paul le dit aux Romains, à l'Église de Rome. « Qui es-tu, toi, un pauvre vase d'argile, pour discuter avec ton Créateur et pour lui demander des comptes ?» Je me suis un peu emporté, excusez-moi. Nous ne pouvons pas grandir dans la vie spirituelle, dans notre relation avec Dieu, si nous ne lui restons pas attachés. Seul Jésus peut nous faire grandir en lui. Donc, notre responsabilité, parce qu'on en a une, hein, ben oui, sinon ça marchera un petit peu mieux, en tant que branche, consiste à maintenir cette relation étroite, en prenant garde à tout ce qui pourrait creuser un fossé, un trou, un espace entre lui et nous. C'est ça notre responsabilité dans le modèle qu'il donne, dans la relation qu'il appelle, dans cette intimité qu'il désire créer entre nous et lui. C'est notre part du contrat, c'est notre rôle dans la relation. Parce que soyons clairs, mais ça vous l'aviez compris, on peut rompre la connexion avec Jésus. Et je vais me moucher. Vous permettez? Merci Dominique d'avoir... Excusez-moi, je vous tourne le dos 2 secondes. Alors soyons pratiques. Qu'est-ce qui pourrait créer un fossé entre le Christ et nous? Qu'est-ce qui pourrait provoquer une cassure entre lui et nous? Alors, je vais vous aider, hein, faut pas répondre à la question. C'est rhétorique. Hein. Ça ne vous étonnera pas, sans doute, de m'entendre parler du péché et du péché non confessé. Donc, péché, donc sortir de la volonté de Dieu, nous le faisons tous. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas parfaits. Mais c'est plus mortel pour ceux qui ont placé leur confiance dans l'œuvre de Jésus à la croix et qui sont donc devenus enfants de Dieu. Donc ça, c'est important. Le fait, je vais dire ça comme ça, de faire l'andouille et de désobéir à Dieu, ça ne vous condamne plus. Mais il y a quand même un chemin à reprendre. C'est celui-là, c'est Jean qui en parle. Il n'est pas beau, Jean, hein? Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui, donc il parle du Christ. Hein. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Si vous êtes là-dedans, si vous êtes né de Dieu, le fait de désobéir à Dieu, entre guillemets, ça n'est plus mortel. Mais ce qui peut quand même rester mortel, pour notre communion avec Jésus, c'est de ne pas confesser, autrement dire, reconnaître notre faute devant Dieu. Alors on ne s'en rend pas compte, hein, mais quand on fait ça, quand on néglige de demander pardon, Il y a des ténèbres qui remontent, et surtout, et c'est Paul qui le dit aux Corinthiens, l'Esprit Saint en nous, et le grec est plus fort. Dans notre traduction française, on a « n'attristez pas le Saint-Esprit ». En fait, le grec est plus fort. « Ne faites pas pleurer l'Esprit Saint en nous ». Donc, quand on déconnecte de Dieu et qu'on ne demande pas pardon en tant que branche, qui sont en train de se détacher de la vigne, Paul nous dit que l'Esprit Saint qui est en nous commence à pleurer. Alors moi, je ne sais pas vous, mais quand j'ai été voir ça dans le texte grec il y a bien longtemps, heureusement que j'étais assis sur ma chaise, ça m'a mis parce que je ne me rendais pas compte. Parce que je ne suis pas plus mal avec les autres, hein, vous avez remarqué. Hein. Je ne me rendais pas compte de ça. Alors, quand vous avez fait l'andouille et que vous avez un problème pour le savoir ou même pour le confesser, repensez à cette image du Saint-Esprit en vous qui commence à pleurer parce que vous ne retournez pas vers Dieu. Donc, il faut bien comprendre que dans ce cas-là, dans le cas où on pêche et qu'on ne confesse pas, la communion avec Jésus est altérée. Le lien, la branche, le lien qui nous unit à la vigne est blessé. Donc, et c'est important de comprendre ça, la gravité de ce que nous faisons ne réside donc pas seulement pour nous en ce que nous avons fait, ce qu'on ne devait pas faire, mais en ce que nous ne le reconnaissons pas et ne demandons pas pardon à Dieu pour ça. Alors, sur ce coup-là, et on comprendra mieux pourquoi la Bible met en guerre contre l'orgueil, et on est tous orgueilleux, moi le premier, hein, on comprend pourquoi les orgueilleux ont beaucoup de mal avec ça. Hein, reconnaître qu'ils ont fait quelque chose qui n'est pas dans la pensée de Dieu. C'est ça qui est terrible, on peut connaître la Bible par cœur et être orgueilleux et ne jamais reconnaître ce que la Bible dit sur nous, hein, ou de nous. Hein. Je vous assure que c'est vrai. La bonne nouvelle, et c'est ce que Dieu redit, c'est que l'offre de réconciliation, refais-moi un gros câlin, reconnecte une andouille, t'as fait l'andouille, et hop, on va refaire un gros câlin. C'est toujours Jean qui le dit dans sa première lettre. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, donc si nous disons que nous ne péchons pas, nous nous trompons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il parle de Dieu là, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. J'ai pris l'exemple des enfants et du père. Logiquement, quand un enfant fait une bêtise, il faut vraiment lui apprendre à revenir, reconnaître sa bêtise et demander pardon. C'est important, me semble-t-il. Ça va dans les deux sens. Quand les parents font une bêtise et sont injustes envers les enfants, il faut aussi demander pardon aux enfants. Hein. Si c'est vrai à ce niveau aussi pour que ça se passe bien dans la famille, croyez-moi, au niveau vertical entre nous et Dieu, c'est indispensable. Alors, pour qu'on puisse vivre ça au quotidien, parce que c'est tous les jours qu'on déconnecte, hein, c'est tous les jours qu'on fait des choses que Dieu ne voulait pas qu'on fasse, hein, ne fût-ce qu'en penser. Si on veut vivre ça, cette réconciliation permanente, il y a deux choses à mettre en place. C'est être connecté en permanence, apprendre, c'est un chemin, apprendre à être connecté en permanence. Je parlais de vous brosser les dents. J'ai dit, vous n'avez pas besoin de Dieu pour vous brosser les dents, mais vous pouvez vous brosser les dents avec Jésus. Mesdames, quand vous cuisinez, messieurs, hein, si on est certains, demandez à Jésus de cuisiner avec vous. Imaginez-le avec vous au moment où vous cuisinez. Imaginez-lui qu'il soit à votre esprit quand vous vous brossez les dents, dans tous les gestes du quotidien. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous apprenez à mettre ça en place, moi par exemple, dans ma voiture, la voiture, c'est une invention du diable. C'est pratique, mais toutes les inventions du diable sont très pratiques. Regardez la femme. Je plaisante. Hein. Je plaisante, pardon. Là, je vais faire une bêtise. Pardon. Moi, je suis magnifique tant qu'on ne me met pas dans une voiture. Vous savez, le nombre de gens que j'ai envoyés en enfer derrière mon volant, c'est une horreur. Quand je suis sur l'autoroute à 120 et qu'il y a un gars qui me pile derrière, qui me fait appel de phare, je me rabats. Hein. Je suis quand même, voilà, je ne fais pas l'andouille. Je me rabats et quand il passe, plutôt que de dire « Seigneur, bénis cet homme » parce qu'il roule dangereusement, il dit « Encore un qui veut aller en enfer plus vite que les autres. » C'est horrible, hein, ça, quand même. Hein? Mais je ne le fais plus, hein, parce que j'ai ma femme dans la voiture à côté. Et ma femme, sur ce angle-coup, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est important d'être connecté. Pourquoi? Parce que quand ça m'arrive en voiture, si je suis connecté, c'est terrible de se dire qu'on est connecté, qu'on peut quand même dire ces horreurs-là de temps en temps. Hein. Au moment où je le dis, comme je suis connecté, tout de suite ça vient. Seigneur, je suis désolé, excuse-moi, pardon. Voilà. Bénis cet homme, il ne se rend pas compte, et j'étais comme lui avant, etc. Voilà. Si vous n'êtes pas connecté, ça va passer. Et ça va s'empiler. Puis 10 minutes après, votre mère, par exemple, vous téléphone, elle vous énerve. S'il y a des ressemblances avec des personnes qui ont existé, c'est pure coïncidence. Et vous allez être pas sympa avec votre maman au téléphone ou trop sec. Voilà, et vous avez raccroché un peu. Et il se passe quoi après? Vous rempilez une couche. Et puis votre fille rentre de l'école ou votre fils ou tiens papa, tu vois, oh mais laisse-moi tranquille, tu crois que j'ai que ça à faire? Troisième couche. Il y a ma fille qui se met là, troisième couche. Parce que moi, avec Jessica, c'est facile, elle me dérange. Moi, comme je suis pasteur, je passe mon temps dans les choses de Dieu. Si elle me dérange, elle dérange Dieu. Et ma relation à Dieu, comprenez? Je plaisante, hein, je taquine. Dans un bon système, il faut se laisser déranger. Il faut arrêter pour la famille, les amis, les frères en Christ, les gens, les humains, parce que c'est ce qui est le plus important aux yeux de Dieu, ça je suis quand même, en dehors de toute plaisanterie, à le préciser. Il faut s'interrompre pour laisser la relation s'installer. Donc, le premier truc, donc, essayez d'apprendre à rester connecté. Ça, c'est le premier truc. Et puis, vous ferez ce que vous voulez. Hein. Moi, vous savez bien que j'aime pas les règles, mais c'est quand même bien. Je suis un petit veilleur, je fais partie de la fraternité des veilleurs. On a un moment de culte personnel le soir aussi. On en a trois sur la journée et on en a un le soir. Pourquoi le soir? C'est ce qu'on appelle le grand silence. Pourquoi? Parce qu'on va dormir juste après. Ce moment-là, indépendamment de la connexion du quotidien, il permet de repasser en revue la journée devant Dieu. Au nom de Saint-Esprit, écoute, montre-moi s'il y a encore un truc que je n'ai pas capté. Quoi. J'ai peut-être été en dessous de tout, j'ai peut-être été dur à quelqu'un, j'ai peut-être pris une mauvaise décision et j'en suis pas conscient, parce qu'on n'est pas conscient de tout hein, non plus. Nous ne sommes pas parfaits. Et il va vous montrer. Et là, je ne savais pas, Seigneur, je te demande pardon pour ça. Vous comprenez? Et vous repartez le lendemain avec une page blanche. Disciple, ça vient de discipline. Hein. Penser qu'on va apprendre à suivre Dieu sans mettre un petit peu de discipline en place, je sais bien qu'on n'aime pas ce terme-là, mais il ne faut pas rêver. Hein. Donc, dans tout ce que je viens de dire, ne le faites pas par vous-même. Hein. Sur vos propres forces, vous n'y arriverez pas. Demandez l'aide du Saint-Esprit, toujours, pour le faire. Pour faire ce que Dieu nous demande, on a toujours besoin du Saint-Esprit. Sinon, vous allez essayer de le faire avec vos propres forces. Et vous allez vous fatiguer. Vous allez culpabiliser parce que vous n'arrivez pas à faire ce que Dieu vous demande de faire et vous allez être abattu après. Et parfois même en vouloir à Dieu que ce qu'il demande est trop difficile. C'est du vécu. Hein. Donc voilà. Par exemple, par rapport au pardon, ça c'est important, je pense. N'avez-vous jamais connu ces moments où vous demandiez pardon à Dieu, mais sans rien ressentir du tout? Aucune émotion. Par exemple, je prends mon exemple de maman. Je suis dur avec ma maman. Au téléphone, ça n'arrive jamais, j'aime ma mère. Je raccroche et puis je dis, oh, j'ai encore été dur avec maman, c'est pas possible. Je vais demander pardon à Dieu. Seigneur, je te demande pardon. Mais je le dis comme ça. Seigneur, je te demande pardon, j'ai été dur avec maman. Voilà. Vous croyez vraiment que ça suffit, ça? Il n'y a pas d'émotion là-dedans. Je viens de blesser ses émotions à elle et moi, je n'ai aucune émotion positive, tristesse ou autre, qui remonte en moi par rapport à ce que je viens de faire. Eh bien ça, c'est typiquement la manifestation d'un chemin qui reste à faire. Le chemin menant d'une confession faite à partir de notre ancienne nature, se revêtant du manteau du religieux, autrement dit, je sais que Dieu me demande de demander pardon, donc je demande pardon, comme ça je fais ce que Dieu me demande. Oui, mais je ressens rien, en fait j'en ai rien ciré. Juste pourquoi je regarde Geoffrey n'a rien à voir là-dedans, hein, je vous rassure. Je suis en train de fixer Geoffrey, mais soit. Comprenez la différence. La différence entre cette attitude-là, et puis, rassurez-vous, hein, et puis la confession produite par l'action de l'Esprit-Saint en nous, qui nous fait ressentir le mal que je viens faire de faire à l'autre et le mal que j'ai fait à Dieu en agissant comme ça. C'est pour cette raison que les pères de l'Église, pendant les 8 premiers siècles de l'ère chrétienne, nous ont laissé tant de prières dans lesquelles ils demandent à Dieu, les larmes de la repentance. Ils demandent à Dieu, donne-moi les larmes quand je te demande pardon. Alors ça, vous l'aurez peut-être reconnu, ça m'étonnerait. C'est Isaac le Syrien, père de l'Église d'Orient du 7e siècle. J'ai pris une partie d'une très belle prière qui nous est parvenue, une de ses prières, où il demande justement ça à Jésus. Écoutez, hein, il s'adresse à Jésus, hein. Au Christ, je n'ai ni cœur brisé pour partir à ta recherche, ni repentir, ni tendresse. Donc, il est en train d'examiner son intériorité. Hein. Il dit, je sais bien que j'ai fait l'andouille, mais je sais bien que j'ai péché, mais moi, je ressens rien. Je sais que c'est pas bien, mais moi, je ne ressens rien. Écoutez bien, je n'ai pas de larmes pour te prier. Mon esprit est enténébré, donc rempli de ténèbres. Mon cœur est froid. Je ne sais pas le réchauffer par des larmes d'amour pour toi. Je suis incapable d'exprimer véritablement mon amour. Écoutez bien, mais toi, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, donne-moi le repentir total, donne-moi le brisement du cœur, brise mon cœur en fait. Je t'ai abandonné, ne m'abandonne pas, je me suis éloigné de toi, toi sors à ma recherche. Même pour éprouver son émotion par rapport à ce qu'il a fait de mal, Isaïe le Syrien, mes amis, indépendamment de la théologie, hein, Isaïe le Syrien, c'est un gars spirituellement qui ne rentre pas dans la pièce ici. Hein, c'est un homme de Dieu extraordinaire. Hein, et il dit, moi, quand je fais quelque chose de mal, la plupart du temps, je ne ressens rien et j'ai besoin que Jésus, par son esprit, me pousse à ressentir le mal que j'ai fait. Et quelle est la différence? Quand vous ressentez le mal que vous avez fait à l'autre, profondément, ça transforme votre vie. Quand c'est l'Esprit Saint qui pousse à ce moment-là en vous, je vous garantis que ça change tout. Parce que vous ressentez intérieurement le mal que vous avez fait. Parce que c'est ce que Dieu veut. Pourquoi ? Parce que ça nous guérit de recommencer. Vraiment. Vraiment. Ça prend du temps, hein. Le côté mécanique, je te demande pardon, je te demande pardon. Et à certains moments, ça tombe. Rassurez-vous, c'est lui qui produit ça. À un moment, ça tombe. Et pourquoi, à certains moments, vous dites, ah ! Bang ! Et alors, c'est le plafond qui descend. Et c'est horrible. Et Daniel Bourguet, mon papa spirituel, a l'habitude de dire, au début, on pleure et ses larmes sont amères. Elles font mal parce qu'on prend conscience. Et après, elles deviennent douces parce que le Saint-Esprit rentre en jeu. Et alors, on vit cette réconciliation avec Dieu. On se rend compte qu'on est aimé et que Dieu est amour et qu'on est aimé par notre Père et qu'il nous accueille, qu'il nous prend dans ses bras. C'est le pied, quoi. Donc, la repentance, demander pardon, ça peut devenir un moment extraordinaire de notre vie. De toute façon, on n'a pas le choix, mes amis. Hein. On fait l'andouille tous les jours. Hein? Enfin, moi, vous, je ne sais pas. Mais moi, en tout cas. Des petites bêtises, hein, je vous rassure. Hein. Il y a longtemps que je n'ai pu tuer personne. Alors, peut-être une petite précision. Encore. Confesser, pour que ça soit clair hein, dans vos esprits, confesser, ça signifie avouer. Simplement reconnaître le fait que notre comportement, écoutez bien, c'est important, n'est pas simplement le résultat d'une mauvaise éducation, d'une mauvaise hérédité, d'une fratrie jalouse ou d'un déséquilibre chimique au niveau du cerveau. Alors, certains de ces facteurs, ou même tous ces facteurs, peuvent être impliqués dans le fait qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Le comportement humain est une chose complexe, mes amis. Mais la confession implique la reconnaissance de notre part que quelque part, au milieu de tout ça, c'est opérer un choix. Et que ce choix, c'est nous qui l'avons fait. Et que ce choix n'a pas besoin d'être excusé, expliqué ou même compris. Le choix en question doit être pardonné. L'ardoise, la facture, doit être effacée. Et tant qu'on se dit, oui, c'est vrai que j'ai été super dur avec machin, mais Seigneur, gna. Non. Non. Le mais, quand vous demandez pardon, le mais, il doit sortir de votre phrase. Les « je te demande pardon, mais » le « mais » il est trop. Dès que vous dites « mais », c'est foutu. Quand on demande pardon, on s'implique seulement soi, peu importe les circonstances. Rien ne justifie de sortir de la pensée de Dieu. Donc quand on demande pardon, dès que vous trouvez, vous cherchez des circonstances atténuantes, Dieu, tant que vous vous justifiez vous-même, quelque part que vous vous pardonnez vous-même, Dieu ne peut pas vous justifier et Dieu ne peut pas vous pardonner. C'est de son pardon à lui qu'on a besoin. Pas d'une autre. Il y a un deuxième, je terminais par ça. Il y a un deuxième petit souci qui peut creuser le chemin, le fossé entre nous et Jésus. C'est le deuxième point. Après le péché, on va prendre la suivante. Je laisse Jésus vous le dire. Ça c'est un texte qu'on n'aime pas. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Paf ! Comme le disait Mark Twain, le romancier américain du 19e, le problème quand j'ai lu la Bible, ce n'est pas les textes que je ne comprends pas, c'est les textes que je comprends trop bien. Ça, on comprend bien, mais qu'est-ce qu'on a un problème avec ça ? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on n'aime pas ce texte-là ? Hein ? Alors, je veux vous rassurer déjà. Ce que Jésus ici n'a rien à voir avec votre salut éternel. Si vous ne pardonnez pas, il vous envoie pas en enfer. De toute façon, l'enfer, vous savez, l'enfer et moi, c'est un truc un peu scabreux. Enfin, soit, je ne vais pas faire un cours de théologie là-dessus, mais ça a tout à voir avec notre expérience maintenant, notre relation avec Dieu. Ça, c'est important. Si tu laisses ce que les hommes t'ont fait, si tu laisses ce que les gens t'ont fait, les blessures qu'ils t'ont infligées, si tu laisses ça casser ta relation avec eux, tu casses ta relation avec moi. Ça rappelle un peu ce que Jean dit dans sa première lettre. Si tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton frère, tu es un menteur. Parce qu'on ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas si on n'aime pas son frère que l'on voit. C'est facile, mes amis, de demander pardon à Dieu quelque part. Il est Dieu, il sait tout. C'est idiot de lui mentir, il sait tout. Ça ne coûte pas cher, mais on doit devenir ce que nous sommes devant Dieu, nous devons le devenir devant les hommes. Alors, sur ça, Jésus ne nie pas ici que nous ne puissions pas être blessés par les autres. Il ne dit pas ça, que ça n'existe pas les blessures. Il ne dit pas non plus que nous n'avons pas besoin d'aide parfois pour guérir nos blessures. Ce n'est pas ça qu'il dit. Mais bien que le pardon fait partie du chemin de guérison. Vous voulez guérir de vos blessures que les autres vous ont infligées, il faut prendre le chemin du pardon ou vous n'en sortirez jamais. Vous savez que, pour ceux qui me connaissent un peu, j'ai cette phrase horrible, enfin, elle m'est venue en pensant au pardon. C'est le seul acte égoïste que tolère Dieu. Quand vous pardonnez, vous sauvez votre tête à vous. Nous devons décider de prendre le chemin du pardon, même si c'est parfois insurmontable ou que ça nous paraît trop difficile. Alors, ça l'est peut-être pour nous, c'est vrai, mais pas pour l'Esprit Saint qui est en nous, parce que lui, il va nous pousser à pardonner. Déjà, le simple fait d'admettre que nous devons pardonner, c'est reconnaître qu'il y a eu un préjudice, qu'on a subi un préjudice. On va donc sortir du déni dans lequel nos blessures risquent de nous enfermer. Vous avez tout eu dans la casserole, il m'a fait du mal, il m'a fait du mal, il m'a fait du mal. Alors le niveau de la soupe va monter dans la casserole, il m'a fait du mal, il m'a fait du mal. Oui, mais vous allez sortir de comment de ça? Pardonner, c'est important de comprendre ça. Pardonner, ce n'est ni oublier, ni effacer. C'est renoncer, selon les cas, à punir ou à haïr. Ce devrait être une vertu de la justice des hommes, puisqu'il faut juger sans haine, et c'est certainement une vertu de la miséricorde. Jésus l'a dit, quand tu fais miséricorde, je te fais miséricorde. Donc, quand tu pardonnes, je te pardonne. Si tu ne pardonnes pas, quant à la raison première pour laquelle nous devons pardonner, elle est révélée en particulier, et je vais vous faire un petit résumé, je terminerai par ça, par la parabole dite, et le comme ça qu'on l'a appelé cette parabole, du serviteur impitoyable. Vous vous rappelez? À un moment, Pierre vient vers Jésus, il dit « Maître », c'est un juif, Pierre, quand même, « Maître », ils avaient codifié tout. « Combien de fois devrais-je pardonner mon frère? Devrais-je le pardonner 7 fois ?» Qu'est-ce qu'il répond Jésus, vous vous rappelez? Combien? 7 fois 77. Autrement dit, il faut pardonner tout le temps. Et après, cette réponse à Pierre, il enseigne la parabole du serviteur impitoyable. Je vous fais le pitch. Un roi, c'est Dieu, un roi se décide de faire valoir ses droits sur les dettes de l'un de ses serviteurs. Il y a quelqu'un qui lui a du pognon, quoi. Et en fait, cette dette est tellement énorme, il doit tellement de sous, que cette dette est impossible à rembourser. Et face à la détresse de son serviteur, il dit, mais maître, je ne pourrai jamais te rembourser. Fais-moi grâce. La parabole, Jésus dit que le maître du serviteur, il est touché. Il est vraiment touché par la détresse. Et il dit, je te remets ta dette. J'efface la droite. C'est fini. Juste après ça, le serviteur qui vient d'être, entre guillemets, pardonné, on a effacé la droite, il sort dans la rue et il tombe sur quelqu'un qui lui doit aussi de l'argent. Mais par rapport à ce que l'autre vient de lui remettre, c'est une cacahuète. Enfin, et il le secoue, il dit, moi je veux que tu me rendes mes sous, quoi. Je veux mon argent, mais je ne sais pas te le remettre. Et le gars, et hop, il le fait envoyer en prison. Les serviteurs du premier maître se disent, mais tu te rends compte de ce qu'il a fait, maître? Et le maître le fait revenir en disant, tu es un mauvais serviteur. D'accord? Ça, c'est le pitch. La grande leçon, parce qu'il y en a une, hein, de cette parabole enseignée par Jésus, c'est la grandeur. Et ça, on a du mal. Hein. On la perd de vue, cette grandeur. La grandeur du pardon que Dieu nous a accordé en Jésus-Christ. Ça, c'est le sens de cette parabole. Jésus dit, est-ce que vous vous rendez compte ce que Dieu vous a pardonné? Ce qu'il a, jusqu'où il a été pour que vous soyez pardonnés. Donc, puisqu'il a été jusque-là, quoi que vous fassent les hommes, vous devez, parce que vous êtes des enfants de ce Dieu-là, vous devez pardonner. Alors, je disais, les dettes astronomiques, hein, pour vous donner une idée quand même de grandeur, parce que comme ça on ne parlera pas dans le vide, la dette du serviteur, du mauvais serviteur, du début, elle est de 10 000 talents. Alors, mes amis, je sais bien que le talent, c'est plus notre... On a l'euro, hein. Mais 10 000 talents, c'est une somme astronomique. Pour vous donner une idée, un talent valait 6 000 deniers. Et un denier, représentait le salaire quotidien d'un ouvrier. Un denier. Donc un talent vaut 6 000 deniers. Le gars devait 10 000 talents. C'est irremboursable. Pour vous donner une idée, le roi Hérode Achilleos ne recevait par an, par impôt, etc., ne recevait par an que 600 talents. Par rapport à la dette du serviteur, c'est rien. Et un autre roi, Hérode Antipas, 200 talents. C'est un budget d'État, quoi. Et le gars, il doit 10 000 talents. C'est pour nous dire, vous ne savez pas rembourser ça. Donc cette dette dans la parabole est à comparer à notre dette devant la justice de Dieu. Elle est immense, elle est impossible à régler par nos propres moyens. On n'y arrivera pas. Donc quand le serviteur demandait du temps afin de tout payer au roi, c'est ce qu'il dit, je te payerai. Il ne se faisait pas plus d'illusions que ne s'en fait celui qui déclare devant Dieu vouloir tout réparer par lui-même dans sa vie. C'est tout simplement impossible. Donc le jugement du roi est absolument juste et mérité. Et donc son pardon, il est entièrement basé et motivé par sa miséricorde. Donc l'attitude de ce fameux serviteur qui vient de se faire remettre une dette irremboursable, cette attitude nous parle de l'aberrance. Écoutez, c'est important. Hein. L'aberrance énorme que constitue un esprit sans pitié pour un enfant de Dieu. Exiger qu'on rembourse la dette, quoi. Tu m'as fait du mal, tu vas payer. C'est ça, en fait, hein, le non-pardon. Le serviteur est dans son droit, bien sûr. Hein. Le préjudice, il est réel dans la parabole. On lui donne des sous. On a été blessé. Mais mes amis, quelle somme minable, hein. 1/600 000e de la somme de la dette que le roi, que son maître, lui a effacée. Donc, quel que soit le tort, nous sommes l'objet, quel que soit le tort que nous avons subi, il ne peut pas être comparé à celui dont nous sommes coupables envers. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on a du mal à pardonner? Parce que déjà, à ce niveau-là, verticalement, on oublie trop facilement ce que Dieu nous a pardonné. On a une trop haute opinion de nous-mêmes pour se rappeler au quotidien. Attends, Coco, tu te rends compte de ce que je t'ai pardonné? Et la sentence de la parabole tombe, et je vous cite comment Jésus termine cette parabole. Aïe, aïe, aïe. Donc après, il reprend le premier serviteur, il le fait jeter en prison, il lui dit « Tu vas y rester jusqu'à quand tu me rembourses le dernier centime. » Et Jésus termine en disant « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Alors, dans ce frère, ne vous faites pas d'illusions. Il y a tout le monde. Ou plutôt n'importe qui. Autrement dit, la directive ne souffre aucune exception. Que ce soit un chrétien, un frère dans la foi, votre mère, votre père, votre meilleur ami, votre concierge, votre voisine, enfin, vous avez qu'à additionner. Hein. Fermez les yeux, il y a peut-être des noms qui vont venir, des gens à qui vous en voulez. Mais la réalité reste. Hein. Un cœur qui appartient au Christ, qui bat à l'unisson du sien, rappelez, la vigne, la branche, ne peut pas demeurer dans une attitude de non-pardon, au risque de ne plus demeurer en lui. C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est Jésus. Alors, ne prenez pas ça comme une catastrophe. Hein. Parce que c'est ce que Dieu veut. Et n'oubliez pas ce que j'ai dit la semaine passée. Dieu donne toujours ce qu'il ordonne. quoi qu'on vous ait fait. C'est un chemin qui prend. Il y a plein d'exemples, je n'ai pas le temps de tous les énumérer. J'en prendrai un. Et je termine par ça, parce que j'ai été fort long, excusez-moi. Certains diront peut-être toujours très long, enfin soit. Je fais des efforts, hein. Il faudra me pardonner. Vous savez que pendant la Deuxième Guerre mondiale, indépendamment du conflit, il y a eu surtout ce qu'on appelle les camps de concentration. Vous vous rappelez ? Voilà. Alors on dit souvent, il y a un texte de la Bible qui dit que les voies du Seigneur sont impénétrables. Je vais raconter cette histoire qui est une histoire vraie, brièvement, et vous allez voir qu'elles sont vraiment impénétrables. Il y a une rafle en France, à Paris, la fameuse rafle du Vel'd'Hiv en 1942, je pense, si ma mémoire est bonne. Et donc une bonne partie des Juifs de France sont arrêtés et envoyés en camp de concentration. Et une partie de ce contingent va à Auschwitz. Je ne vais pas vous faire un dessin. Les gens qui arrivent à Auschwitz, soit ils passaient aux chambres à gaz tout de suite, soit ils travaillaient, on les faisait travailler jusqu'à ce qu'ils meurent, de faim, d'épuisement, etc. Ça, c'est Mais certains en sont sortis. Et une jeune fille de 15 ans qui est déportée à Auschwitz, elle est juive donc. Alors, ne me demande pas comment, elle n'explique pas vraiment, quoi qu'il en soit. Dans cet enfer d'Auschwitz, parce qu'elle n'est pas gazée, elle est jeune, elle est robuste, donc elle va pouvoir travailler. Dans cet enfer où elle a toute sa famille se faire gazer, elle rencontre Dieu. Cette fille est torturée tous les jours. On fait des expériences médicales sur elle, parce qu'elle est robuste, elle peut encaisser les expériences. Et c'est toujours le même lieutenant SS qui pratique ces expériences sur elle. Ça dure 3 ans. Les Russes libèrent le camp d'Auschwitz, les Allemands perdent la guerre, elle est toujours vivante. D'accord ? Elle est chrétienne, elle est vivante. Elle en veut à mort à son tortionnaire. On peut peut-être s'imaginer pourquoi. Hein ? Mais Dieu travaille dans son cœur. Il dit, tu ne peux pas continuer à lui aller. Bien, c'est horrible ce que tu as. Bien sûr que c'est horrible. Enfin, forcément que c'est horrible. Mais non seulement il t'a pourri 3 ans de ta vie, mais il va te pourrir tout le restant de ta vie si tu ne pardonnes pas. Et cette femme commence à travailler sur elle-même avec l'aide du Saint-Esprit. 5 ans plus tard, elle habite l'Allemagne de l'Est. C'est bizarre, hein ? 5 ans plus tard, elle se met à la recherche de cet ancien officier nazi pour voir s'il est toujours en vie. Et elle le retrouve en Allemagne de l'Est. Elle va toquer à sa porte. Elle lui dit, vous me reconnaissez ? Et l'officier la reconnaît très bien. Vous avez 10 minutes à m'accorder. Le gars, il était un peu penaud, il l'a fait rentrer. Ils sont devenus les 2 meilleurs amis du monde. Et aujourd'hui, ce gars est chrétien. Je vous dis, je ne préfère même pas imaginer comment ça s'est passé, sa demande de pardon à lui, à cette femme. Elle a guéri, elle s'est convertie au Christ dans les pires endroits au monde, elle a guéri de tout ce qu'on lui avait infligé, et parce qu'elle a pardonné, un des pires êtres humains qui est posé le pied sur cette terre est aujourd'hui un enfant de Dieu. La question qui reste, est-ce qu'on y croit ? Mes amis, quelle chance pour cet homme que cette femme a cru au pardon de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.